Bonjour Elsa Humbert, on vous cueille à la sortie du spectacle Hélène K. Donc vous êtes la metteuse en scène. Donc ce spectacle se joue à la Comédie de Saint-Étienne et c'est un spectacle jeune public.
C'est un spectacle jeune public, tout public. Et là, par exemple, vous avez assisté à une représentation où il y avait un public très mélangé, avec beaucoup d'enfants, mais aussi des parents, des amis. Et c'est vraiment quelque chose auquel on tient ici à la Comédie. C'est aussi que, voilà, on puisse venir accompagner. Et pour moi, c'est vraiment important de m'adresser aux enfants, certes, mais aussi, voilà, à leurs parents ou à leurs aînés.
Oui, alors d'ailleurs, je pense que effectivement, c'est un spectacle qui parle à tout le monde. C'est l'histoire de Hélène K. Alors Hélène K, c'est une petite fille qui, à l'âge de 18 mois, suite à une maladie, devient sourde, muette et aveugle.
Alors elle devient sourde et aveugle. En réalité, alors on dit qu'elle est muette dans le sens où elle ne peut pas communiquer avec les autres, elle ne peut pas parler. Mais en réalité, elle peut crier, enfin elle peut faire des sons. Voilà, c'est
D'accord.
juste pour apporter une petite précision.
D'où elle vient et qui sont ses parents peut-être?
Donc Hélène K pour Hélène Keller, effectivement, qui est une personne qui a vraiment existé, qui est née à la fin du 19e siècle en Alabama, dans une toute petite ville, et qui effectivement va avoir le malheur d'attraper une maladie dont on ne sait pas très bien aujourd'hui ce que c'était, si c'était peut-être la scarlatine, en tout cas une forte fièvre cérébrale qui va faire qu'elle va perdre l'usage de deux de ses sens, la vue et l'ouïe. Sur le moment, ses parents vont pas très bien comprendre ce qui se passe. Ils vont également penser qu'elle a perdu en même temps ses facultés psychiques, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité, puisque son problème, c'est d'être un peu enfermée à l'intérieur d'elle-même, de ne pas pouvoir communiquer avec les autres. 2 ans, c'est aussi l'âge où le langage se met en place. Du coup, elle ne peut pas parler. Et c'est ça qui lui pèse, en fait.
Ses parents vont s'adresser au célèbre Graham Bell, qui est connu pour le téléphone, mais aussi pour son travail de phoniatre, j'ai noté ça. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement?
Le professeur Graham Bell, il se trouve que plusieurs personnes de sa famille étaient vraiment malentendantes. Et du coup, il a fait beaucoup de recherches et essayé d'inventer des instruments pour essayer d'améliorer l'audition des personnes qui n'entendaient pas. Et par inadvertance, il se trouve qu'il a inventé le téléphone. Voilà. Mais il était professeur à Boston, il enseignait également et il s'intéressait particulièrement à ces questions. Et c'est lui qui va conseiller à la famille Keller de s'adresser à un institut qui s'appelle l'Institut Perkins à Boston, qui existe toujours aujourd'hui, un institut pour jeunes aveugles. Voilà. Et c'est cet institut qui va envoyer, quelques temps plus tard, une ancienne élève qui elle-même a connu la cécité dans sa jeunesse, dans la famille d'Hélène.
Alors, on peut citer peut-être son nom.
Alors, elle s'appelle Annie Sullivan.
Et finalement, ce que décrit la pièce, c'est qu'elle est devenue quelqu'un même d'assez célèbre, puisqu'elle a même écrit des bouquins.
Effectivement, au-delà de cette histoire de handicap, elle a été tout de même la première femme handicapée à rentrer dans une université qui n'est pas Harvard. Elle veut aller à Harvard, mais elle sera diplômée d'une autre université. Et puis, effectivement, elle va écrire des livres, une autobiographie, enfin plusieurs essais. Elle va faire tout un tas de choses absolument passionnantes. Elle va s'engager en politique, défendre le droit des femmes. Son histoire me touche en tout cas parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais resté à la place qu'on voulait bien lui laisser, qui a toujours voulu repousser plus loin les limites de ce qu'elle pouvait faire. Et en ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant.
Elle ne parle pas que de son histoire personnelle, en fait.
Non, au-delà de ça, je pense que c'est aussi une histoire qui touche les spectateurs, en tout cas je l'espère, parce que ça parle aussi du rapport qu'on a avec le langage, avec la parole et comment être en possession des mots, ça modifie plein de choses dans le rapport au monde. Et c'est quelqu'un pour qui ça a été un grand bouleversement de pouvoir manier le langage, quoi.
Alors justement, sur scène, vous nous présentez la rencontre entre Hélène Keller et Annie Sullivan. Et donc, on va voir effectivement qu'au début, la jeune fille, elle ressemble un peu à une petite fille sauvage. Alors, c'est une danseuse qui joue à cette petite fille. Et au début, ses gestes sont désordonnés. Et effectivement, on a l'impression qu'elle est dans un monde à part et il est difficile de rentrer en communication avec elle. Et du coup, Annie va essayer par des méthodes qui visiblement ne plaisent pas forcément aux parents au départ. Voilà, il y a vraiment toute une période qui est très longue où elle essaye vraiment de trouver le moyen de lui apprendre des choses finalement.
Oui. Alors effectivement, quand Annie Sullivan débarque dans cette famille, elle fait la rencontre d'une petite fille qui est extrêmement mal élevée parce que, comme on pense qu'elle est bête, on la laisse un peu vivre, effectivement, comme vous dites, comme une enfant sauvage. Donc elle a le droit de piocher dans les assiettes, on ne l'oblige pas à faire son lit. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on lui passe, aussi parce qu'on a pitié d'elle. Et ce qui va être révolutionnaire, justement, avec l'arrivée de cette Annie Sullivan, c'est qu'elle n'a absolument pas pitié. Elle s'est retrouvée dans sa jeunesse dans la même situation. Et du coup, elle va dire, tu dois faire comme les autres, ça n'est pas parce que tu es handicapé que tu ne dois pas bien te conduire, apprendre les règles. Et finalement, ça va passer aussi par des moments très violents, de lutte, parce qu'il faut qu'elle reprenne le pouvoir dans cette famille. Donc elle va commencer par l'isoler. Elle exige d'être seule avec Hélène dans une petite maison pas très loin de la propriété. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle va arriver à ses fins aussi. Après, voilà, c'est pas juste une histoire de pouvoir. Annie Sullivan, je pense que c'était vraiment aussi une pédagogue absolument géniale et très intuitive, très fine et qui a fait preuve de beaucoup d'intuition aussi dans l'éducation qu'elle a donnée à Hélène.
Il y a un moment sur scène, par rapport à ce que vous dites, où elle comprend le lien entre l'eau qu'elle touche et le mot « eau ». Et je trouve que c'est un moment vraiment très fort de la pièce qui touche et on a envie d'applaudir avec Annie.
Alors, bah, c'est un moment de la pièce, certes, mais en fait, c'est vraiment un moment vrai de la vie d'Hélène Keller, puisque en fait, elle le raconte vraiment très précisément dans son autobiographie. Et effectivement, c'est un moment qui a beaucoup fasciné l'histoire d'Hélène Keller. Et ce moment en particulier a inspiré beaucoup d'œuvres artistiques. En fait, il y a eu un très beau film, très hollywoodien, dans les années 60. Il y a une bande dessinée, il y a des dessins animés, il y a des téléfilms. Il y a même un film à Bollywood qui a été tourné à partir de cette histoire. Et ce passage-là, en tout cas précisément, elle le décrit vraiment avec beaucoup d'acuité dans son livre. Elle dit où elle était précisément, ce qui se passe, qu'elle laisse tomber sa tasse par terre, qu'elle tombe au sol, qu'elle se relève, qu'elle épelle le mot « haut ». Enfin voilà, là j'ai vraiment suivi très précisément ce qu'Hélène Keller écrit dans son autobiographie.
Et alors, est-ce que dans la vie réelle, ce qui s'est passé pour elle, est-ce que c'est la même chose que ce que vous décrivez dans le spectacle, c'est-à-dire qu'elles avaient un destin lié, ces deux personnes ?
Oui, absolument. Alors, c'est aussi ce qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'elles sont restées extrêmement proches toute leur vie. Elles ont toujours habité ensemble. Et Annie Sullivan a été toujours présente quasiment 24 heures sur 24 pour Hélène. À tel point que plus tard, Hélène Keller dira « Je ne sais pas en moi ce qui est inné, ce qui vient de moi-même et ce qui vient d'Annie. » Vous voyez le trouble aussi de ce que ça peut représenter tout ça.
Mais l'une est décédée avant l'autre.
Alors, on l'évoque effectivement dans la pièce. Donc, elles ont fait tout un tour de music hall. Ce tour de music hall a duré 4 ans. Ça a beaucoup usé la santé d'Annie Sullivan. Et elle est morte quelques années après. Hélène Keller a vécu bien après. Elle a réussi à se débrouiller sans Annie. Ce qui était aussi une grande victoire et très important pour Annie Sullivan, le fait qu'Hélène reste indépendante et continue à accomplir ce qu'elle devait, même sans elle.
Le choix de la danseuse, peut-être, pour interpréter Madame Keller ?
Oui, effectivement, je trouvais que c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse s'engager beaucoup physiquement. D'abord parce qu'il y a des scènes très physiques, comme la scène de la bagarre. Puis, on avait envie aussi de pouvoir raconter justement tous ces moments un peu abstraits, quand elle est enfermée à l'intérieur d'elle-même. Et on avait l'intuition, je dis « on » parce que j'ai travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Cécile Lalois aussi, tout au long de la création. Et j'avais l'intuition que ça serait beau de raconter ça par la danse plutôt que par le langage, en l'occurrence.
Oui, alors ça évoque aussi, je pense, des films qui font partie de l'imaginaire. Mais
L'enfant sauvage
de Truffaut, voilà.
Très clairement, par exemple, la première séquence du spectacle, quand on voit Hélène qui passe dans les feuillages et tout ça, il y avait aussi ce mythe-là de l'enfant sauvage et qui, même si c'est pas tout à fait la même histoire, il y a plein de petites connexions entre ces deux histoires-là et c'est vrai que ça nous a beaucoup inspiré, effectivement.
Le message peut-être que vous avez voulu insuffler, on parle beaucoup du langage, de l'importance du langage. Il y a aussi, à un moment, tout un passage intéressant aussi sur l'amour, enfin, par du corps et le message, forcément, oui, sur la différence, le handicap, l'altérité. Tout ça a été pensé en amont?
Oui, disons que je trouve que c'est vraiment pas vain de vouloir parler de handicap à des enfants. Je trouve que c'est vraiment important de parler de ça, de parler de la différence. Et puis, encore une fois, cette histoire me touche aussi parce que finalement, c'est pas le handicap qui est en question. C'est plutôt le fait de pas pouvoir parler avec les autres. C'est ça qu'elle dira plus tard. Elle dira, ce qui m'a fait souffrir, c'est pas de perdre la vue ou de perdre l'audition, mais c'est plutôt de pas pouvoir parler. Et finalement, elle a réussi à faire ça. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau.
Et juste, est-ce qu'on sait ça, si elle se sentait vraiment, enfin en même temps elle était petite, mais vraiment enfermée, enfin dans une sorte de ténèbres ou... Parce que beaucoup de gens qui deviennent aveugles ou qui sont aveugles de naissance, finalement, n'ont pas cette impression d'être dans l'obscurité.
Alors, elle a beaucoup parlé de cette période, la période où justement elle était seule avant l'arrivée d'Annie Sullivan, assez précisément en disant qu'elle était baignée dans une sorte de non-monde, un espèce de monde où on n'a pas d'affect, où on ne ressent pas ni colère, ni joie. Voilà, un monde assez coupé de tout. Après, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le monde dans lequel je vis » où elle décrit assez précisément justement ce qu'elle perçoit et comment elle se sent. Et voilà, il est accessible cet essai sur Internet, on peut le lire assez facilement et c'est assez intéressant.